La superfluidité, c'est un état de la matière quantique et donc ce n'est pas extrêmement facile à comprendre, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer que, en somme, il existe des fluides qui sont plus ordonnés que les autres, qui sont des fluides quantiques, qu'on appelle superfluides parce que leur viscosité est nulle, et dont on peut voir que le comportement est surprenant, puisqu'il s'agit d'une manifestation à l'échelle macroscopique, ce qui est rare, de la mécanique quantique, dont tout le monde sait bien qu'elle est paradoxale souvent. C'est aussi une propriété de la matière qui, je crois, tient en haleine les physiciens depuis plus de 60 ans, et c'est ça aussi que je voudrais vous faire sentir. La superfluidité a donc été découverte en 1937 dans un liquide particulier qui est l'hélium-4. Alors, il existe deux héliums, vous savez sans doute qu'il y a tous les éléments ont plusieurs isotopes. Il y a par exemple l'uranium-235 ou l'uranium-238 qui sont célèbres pour d'autres raisons. Il y a aussi l'hélium-4 et l'hélium-3 qui sont deux isotopes différents, l'un légèrement plus lourd puisqu'il contient un neutron de plus que l'autre, le plus léger, l'hélium-3. Bref, en 1937, dans plusieurs laboratoires au monde, différents chercheurs ont découvert que l'hélium-4 liquide changeait de comportement, semblait passer dans un état extrêmement étrange, dont la viscosité était nulle, mais pas, et ce n'est pas le seul aspect surprenant de ses propriétés. En fait, depuis cette époque, cette propriété n'a donc cessé d'être étudiée, puisqu'en fait, on a aussi découvert la superfluidité dans l'hélium-3 liquide, mais en 1971, c'est-à-dire 35 ans plus tard, que la superfluidité est une propriété très voisine de la supraconductivité, qui alors là est une propriété de certains métaux qui a de très nombreuses applications industrielles ou technologiques, que la superfluidité intervient aussi dans les propriétés des noyaux atomiques et même vraisemblablement dans ce qu'on appelle les étoiles à neutrons, je dirai un mot à la fin de l'exposé. Par ailleurs, il s'agit d'une propriété suffisamment complexe pour ne pas être totalement comprise, à mon avis, aujourd'hui en l'an 2000. Et enfin, dans la fin de cet exposé toujours, je souhaite vous parler de l'intérêt pour cette propriété de la matière qui a été renouvelée en l'an 2000, à mon avis, ou il y a très peu de temps, en tout cas, par la découverte de la superfluidité toujours, mais cette fois dans des vapeurs alcalines qui peuvent conduire, je pense, à la réalisation de ce qu'on appelle des lasers à atomes. Alors voici un vaste programme. J'ai l'intention d'essayer de vous expliquer tout cela avec pratiquement aucune équation, mais ça va quand même être difficile, mais les quelques équations que j'aurai seront très simples et j'essaierai de vous les expliquer le plus simplement possible. Alors j'ai pensé qu'il n'était pas mauvais de commencer par des choses très élémentaires, c'est-à-dire l'écoulement d'un liquide entre deux vases communicants sous l'effet d'une différence de pression. Alors ça, ce n'est pas de la physique du XXe siècle, c'est de la physique du XIXe. Et donc, j'imagine que vous savez tous ou vous sentez tous que si j'ai deux vases comme ça et qu'il y a une différence de hauteur entre les deux côtés, eh bien le liquide va couler à travers ce tuyau et que le débit, que j'appelle Q, sera proportionnel à la différence de pression entre les deux côtés, P1 étant supérieur à P2 à cause du poids de cette colonne de liquide. Alors, ceci s'appelle la loi de Poiseuil, c'est dans tous les bons traités d'hydrodynamique, et effectivement, la loi de Poiseuil dit bien que le débit Q est proportionnel à la différence de pression aux bornes du tuyau, avec un coefficient ici qui dépend de la viscosité de ce liquide. Et là, effectivement, je pense que vous avez tous l'expérience quotidienne du fait qu'un liquide visqueux, ça coule moins vite qu'un liquide fluide ou moins visqueux. Donc, si état est cette viscosité, vous voyez bien que le débit va être plus grand si la viscosité est plus faible et vice-versa. Donc, si je fais cette expérience avec de la glycérine, ça coulera moins vite que si je fais l'expérience avec de l'eau. D'autre part, vous voyez que la vitesse d'écoulement va dépendre de la différence de pression, c'est-à-dire du niveau dans chaque récipient. Eh bien, entre 1935 et 1938, faisant une expérience de ce type avec de l'hélium liquide, donc à très basse température, Vers 2 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 271 degrés Celsius ou ordinaire. Trois groupes de recherche, j'ai mis quelques noms ici. D'abord à Toronto, au Canada, M. Burton, puis Kapitsa, grand physicien russe, travaillé à Moscou, a eu le prix Nobel plus tard pour cette découverte. Et aussi en même temps, deux Anglais, Allen et Meissner, qui travaillaient à l'époque à Cambridge, se sont aperçus que, en somme, si on faisait couler de l'hélium liquide à travers un tuyau, la situation était très différente selon que la température était supérieure à environ 2 degrés ou inférieure à environ 2 degrés. Ce n'est pas exactement 2 degrés, c'est 2,17. On sait ça très précisément aujourd'hui. Donc 2,17 Kelvin. Et la différence de comportement, c'était que, d'une part, la viscosité semblait s'effondrer, disparaître, quand on refroidissait ce liquide en dessous de cette température dite critique, et que d'autre part, l'écoulement devenait indépendant de la différence de pression, ce qui aussi est assez étrange par rapport à ce qu'on sait de l'hydrodynamique classique. Donc, ça c'est la découverte historique, les années 30. Ces articles ont tous été publiés dans Nature à l'époque, en 1935, puis 37-38. Voici l'expérience historique de Kapitsa, daté du 3 décembre 1937. Donc vous voyez, c'est des vases communicants. Il y a l'intérieur de ce tube qui est un peu plus haut et puis l'extérieur qui est un peu plus bas. Et en principe, ça s'écoule à travers cette fente qui est en fait le petit espace d'une fraction de micron entre deux disques polis pressés l'un contre l'autre. Et ce que Kapitsa avait découvert à l'époque, c'est que si la température était donc supérieure à cette valeur critique de 2,17, eh bien, aucun écoulement n'avait lieu. L'espace était trop mince pour que l'hélium liquide puisse couler. Et dès qu'on passait en dessous de cette température, au contraire, l'hélium coulait avec une vitesse incroyable, ce qui semblait signifier que la viscosité avait disparu. Alors, Allen et Meissner, et j'insiste sur le professeur Jack Allen parce que vous allez voir un bout de son film tout à l'heure. Allen et Meissner à Cambridge, exactement à la même époque, ont fait une mesure plus précise à mon avis, s'il s'agissait de la vitesse d'écoulement en fonction de la pression. Et ce qu'ils observaient, c'est que vers 2 degrés, bon, ça ne coulait pas très vite, la vitesse est faible, vous voyez. En revanche, vers 1 degré Kelvin, eh bien, c'est une échelle logarithmique, donc la vitesse était 10 ou 100 fois plus grande. Alors, ce phénomène a été étudié en beaucoup plus grand détail par la suite. Kapitsa a eu le prix Nobel, je pense, enfin c'est un peu agressif ce que je vais dire là, mais principalement pour avoir inventé le mot superfluide, parce que je crois vraiment que Jack Allen en avait fait davantage que lui à l'époque. Quoi qu'il en soit, avant de vous montrer deux petites séquences de cinéma, parce que je crois quand même qu'il faut voir cet effet avant d'en parler de manière plus scientifique. Je voudrais résumer très rapidement quelques différences entre ces deux liquides qui ont été découverts à cette époque. Il faut aussi penser que l'hélium est un petit atome très simple, rond, qui n'a aucune chimie, aucun magnétisme, rien de spécial. Et donc penser qu'une assemblée de petits atomes ronds sans aucune propriété spéciale peut se mettre dans deux états différents, faire deux liquides très différents, c'est quand même un peu surprenant. Donc, au-dessus de cette température, l'hélium qu'on appelle 1 est un liquide simple, léger, normal, faiblement visqueux. En revanche, en dessous de cette température, l'hélium qu'on appelle 2, l'hélium liquide 2, c'est une notation historique, semble donc avoir une viscosité nulle. Ce qui a deux conséquences à propos. Si le récipient dans lequel vous mettez de l'hélium liquide à basse température est légèrement poreux, eh bien l'hélium s'échappe à travers les pores, même si c'est des pores de l'ordre de quelques angstroms, avec une vitesse incroyable. Donc c'est très difficile de faire des expériences avec ce liquide parce qu'il faut faire extrêmement attention à avoir des choses bien étanches. Donc les superfluides sont le cauchemar du physicien des basses températures que je suis. Par ailleurs, et cette expérience, cet effet a connu une certaine célébrité, Si vous imaginez que vous avez un vase comme ceci, avec de l'hélium liquide bien sûr au fond, à cause de l'effet de la gravité, eh bien en fait ce vase se vide tout seul. Pourquoi se vide-t-il tout seul? L'hélium mouille parfaitement les parois, comme beaucoup de liquide dans un récipient. Il y a un film de liquide qui s'étend sur les parois partout. Et donc, avec un liquide classique, ce film est très mince. Donc, faire couler un film très mince, si la viscosité n'est pas nulle, c'est pratiquement impossible. Très mince, je veux dire quelques centaines d'angstroms. En revanche, si la viscosité est nulle, ce film qui recouvre les parois a beau être très mince, il peut s'écouler très vite. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'hélium liquide remonte, s'écoule le long des parois, redescend par là, et goutte à goutte, le récipient se vide. Donc, c'est l'écoulement de ce film découvert par M. Rollin. En somme, un vase rempli d'hélium superfluide se vide tout seul. Par la suite, on a découvert de nombreuses propriétés surprenantes de ce liquide. L'une d'elles, c'est que la conductivité thermique de ce liquide semble infinie. C'est très difficile d'établir une différence de température entre deux points d'une masse d'hélium liquide. Par ailleurs, la chaleur dans ce liquide, au lieu de diffuser, comme elle diffuse dans tous les matériaux, très mal dans le bois, un peu mieux dans le métal, très bien dans le cuivre pur, eh bien, la chaleur, au lieu de diffuser donc comme dans toute la matière ordinaire, se propage sous forme d'ondes. Donc, il existe des ondes de chaleur dans ce liquide bizarre. Un autre effet spectaculaire que je vais vous montrer dans très peu de temps en cinéma s'appelle l'effet Fontaine. Et enfin, on parlera de tourbillon quantique. Alors, juste un mot de l'effet Fontaine avant de regarder un peu de cinéma. Qu'est-ce que c'est? Toujours Monsieur Jack Allen à Cambridge en 1938, 5 février. Il a remarqué que si on avait donc toujours de l'hélium liquide avec une sorte de pipette comme ceci, et puis un petit élément chauffant que vous voyez là. J'espère que vous voyez bien à propos. Ça va? Oui? Pas sûr. J'espère. Bon. Donc on chauffe un peu l'intérieur de cette pipette avec une petite résistance ici. Et ce qu'on voit, c'est que le niveau monte. Il semble que la pression augmente sous prétexte que la température a un peu augmenté. Et en fait, si on raffine l'expérience en chauffant grâce à simplement une lampe, hein, et en interposant ici un filtre, c'est de la poudre d'émeri. Eh bien, la différence de pression entre l'intérieur chauffé et l'extérieur non chauffé est telle que l'hélium est susceptible de jaillir de ce tube et de faire une petite fontaine. Alors, il y a une photo de ceci, mais on va voir une séquence vidéo très rapidement. Alors, dans cette séquence vidéo, vous allez voir ceci en beaucoup mieux et en bleu. Alors, je souhaite qu'on voit deux séquences vidéo. Une première, allons-y. Est-ce que je dois éteindre ceci ou pas? Non. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est un thermomètre en Kelvin. Ici, c'est de l'hélium liquide normal. Ici, c'est un élément chauffant qui fait bouillir l'hélium, comme si vous mettiez une résistance chauffante dans de l'eau. Mais quand la température va passer 2,2 ici, vous allez voir la transition superfluide se manifester par l'arrêt du bouillonnement. Donc la température descend, 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 on arrive tout près de la transition, et voilà, ça c'est de l'hélium superfluide. Donc si vous venez dans mon laboratoire un jour, et après tout venez, peut-être pas tous ensemble, je pourrais vous montrer ça. Je pourrais vous montrer ça. Alors là, ce qu'ils vont faire, c'est le chemin inverse. On part du superfluide, qui est un liquide très calme, qui ne boue pas. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il ne boue pas. On remonte la température et quand on passe 2,2, hop, d'un seul coup, ça y est, c'est un liquide normal qui bouillonne quand on le chauffe. Donc ça, c'est la transition superfluide qui vous montre qu'il existe une température très particulière où l'hélium liquide passe d'un état à un autre de manière réversible. On entend un peu le commentaire en anglais de M. Jack Allen, car ce film. Alors, Pendant qu'on arrive à la deuxième séquence, je dois vous dire, pour la petite histoire, mais je trouve ça émouvant, que Monsieur Jack Allen, à 90 ans et quelques, est actuellement à l'hôpital à Saint-Andrews, en Écosse, et a réalisé ce film à la fin de sa carrière, et a bien voulu m'en envoyer une copie, ce qui me permet de vous la montrer aujourd'hui. Alors, la raison pour laquelle l'hélium ne bout pas, c'est que sa conductivité thermique est tellement grande qu'il n'y a pratiquement pas de différence de température entre les différents endroits du volume. Donc quand vous avez une casserole d'eau et que vous chauffez, c'est toujours plus chaud en bas, donc c'est là qu'apparaissent des bulles qui ensuite vont monter à travers le liquide. Mais si la température est extrêmement uniforme, vous avez de l'évaporation en surface, mais pas de bouillonnement, pas de nucléation de bulles sur les endroits chauds. Et donc c'est pour ça, c'est en fait principalement une conséquence de l'augmentation de la conductivité thermique. C'est pour ça donc que l'hélium cesse de bouillir quand il devient superfluide. Si nous sommes prêts pour voir la deuxième séquence, nous allons voir l'effet fontaine. Donc dans le même cryostat, où vous voyez c'est un peu bleu parce qu'on est obligé de filtrer l'infrarouge pour empêcher. Alors il y a un élément chauffant ici aussi. On va remplir ceci d'hélium liquide et on va chauffer un peu. En fait, là en dessous, il y a un filtre qui permet de faire une différence de température entre l'intérieur ici et l'extérieur. Et voilà, ça c'est l'effet de l'application d'un peu de chaleur, un demi-watt autant que je me souvienne, à cet hélium liquide à l'intérieur, séparé de l'hélium liquide superfluide donc à l'extérieur par un filtre. Un liquide ordinaire se dilaterait un peu. Un superfluide jaillit en fontaine. Alors, pour vous expliquer l'origine de cet effet, il faudrait que je vous écrive une petite équation simple de thermodynamique. Je ne vais pas le faire, mais je souhaitais simplement vous donner l'impression que l'écoulement d'un superfluide a quelque chose de calme et d'étrange, et de, en tout cas différent de l'écoulement d'un liquide ordinaire, surtout quand on le chauffe. Alors, je crois qu'on va, maintenant que vous avez vu un superfluide, je crois qu'on va, heureusement ou malheureusement, ça dépend des goûts, passer à de la science un peu plus quantitative. Et donc, l'année 38 a été très riche dans ce domaine. Dès le mois de mars, Fritz London, qui était de passage à Paris à l'Institut Henri Poincaré, a émis l'hypothèse que cette propriété de la matière, dite superfluidité, était donc liée à un phénomène qu'on connaissait déjà à l'époque, qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Alors, certains d'entre vous ont peut-être écouté la conférence de Claude Cohen-Tanucci la semaine dernière. Je pense qu'il a dit quelques mots de la condensation de Bose-Einstein. Je parle de la même condensation de Bose-Einstein. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il s'agissait à l'époque d'une prédiction pour des gaz dans le cadre de la mécanique quantique, qui avait été en fait, plus précisément, une suggestion d'un étudiant bengali qui s'appelait Bose, en 1924, qui avait écrit à Einstein, lequel avait généralisé ses idées en 1925, mais n'y croyait pas beaucoup. C'est pour ça que sa réaction, après avoir fait le calcul, à la suggestion de Bose, avait été It's pretty, but is it correct? Bon, ce qui veut dire c'est joli comme résultat, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Bon. Autrement dit, il n'y croyait pas, et à l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'une sorte de pathologie de la théorie qui n'avait sans doute aucune réalisation expérimentale possible. Or, en 1938, donc changement radical, London suggère que la superfluidité est liée à ce phénomène, à cette prédiction incroyable de Bose-Einstein, dite condensation de Bose-Einstein. Alors de quoi s'agit-il? Ce n'est pas très facile à expliquer, mais je vais essayer. Ça a à voir avec la dualité onde-corpuscule, ça ne vous étonnera pas pour une propriété quantique. Et donc certains d'entre vous savent sans doute que, une particule en mécanique quantique peut être considérée soit comme une onde, soit comme un corpuscule, et que, il existe une quantité qu'on appelle la longueur d'onde de De Broglie, associée à toute particule dont la vitesse est v, donc l'impulsion p, et que la longueur d'onde de De Broglie, c'est h, la constante de Planck, divisée simplement par cette impulsion. Alors en fait, ceux d'entre vous qui, à nouveau, savent un peu de physique, savent que l'énergie cinétique thermique d'une particule, c'est la valeur moyenne de l'énergie cinétique habituelle, 1,5 de mv2, et c'est égal pour un atome simple à 3,5, une fois et demi, kT, ou k est la constante de Boltzmann cette fois-ci. Et donc, on peut calculer la longueur d'onde de De Broglie facilement en fonction de la température. Vous voyez que la longueur d'onde de De Broglie, c'est quelque chose qui dépend de la constante de Planck. On est en mécanique quantique. Bon, la constante de Planck apparaît, de la masse de la particule, de la constante de Boltzmann et la racine carrée de la température. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que toute particule, en fait, est aussi une onde dont la longueur d'onde devient grande si la température est faible. Ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui se passe lorsque la longueur d'onde de De Broglie devient comparable à la distance entre deux atomes. Alors, les ondes qui représentent chacune de ces particules se recouvrent. Et si les ondes se recouvrent, alors la prédiction de Bose-Einstein est que les atomes adoptent un comportement collectif. Ces ondes se synchronisent, si vous voulez, et les atomes, au lieu d'être animés de mouvements aléatoires et indépendants, deviennent tous identiques, représentés par des ondes qui se superposent. C'est expliquer avec les mains l'idée de la condensation de Bose-Einstein. Il s'agit donc, si vous voulez, d'une transition entre un comportement classique et un comportement quantique, associé au fait que les atomes adoptent un comportement collectif. Ce n'est pas très facile à dessiner, mais malgré tout, avant de vous montrer une autre tentative de dessin, je dois préciser que, en fait, en mécanique quantique, il existe deux sortes différentes de particules, celles qu'on appelle des bosons et celles qu'on appelle des fermions. Alors, ceci est bien connu des physiciens, ou en tout cas des chercheurs. Ceci n'est évidemment pas enseigné au lycée, mais disons de manière très schématique que la différence entre les fermions et les bosons, c'est une question de symétrie. Alors, les fermions, par exemple les électrons, les protons, les neutrons, obéissent à des lois statistiques qu'on appelle statistiques de Fermi-Dirac, qui ne sont pas les mêmes que les bosons, dont les exemples sont les photons, vous savez, les particules de lumière, si vous voulez, ou aussi tout nombre pair de fermions, en fait. Et la différence entre les deux, c'est une question de symétrie, dans les détails de laquelle je n'ai pas l'intention d'entrer, si ce n'est de vous faire remarquer que l'hélium-3 et l'hélium-4, vous savez, les deux isotopes dont je vous ai parlé au début, en somme, ont une différence intéressante, c'est que le noyau de l'hélium-3 n'a qu'un seul neutron, alors que le noyau de l'hélium-4 a deux neutrons. Autrement dit, cet atome a un nombre pair de particules et celui-là en a un nombre impair. En conséquence de quoi, ce que prédit la mécanique quantique, c'est que l'hélium-4 est un boson, alors que l'hélium-3 est un fermion. Et que donc, en principe, leurs propriétés statistiques quantiques sont très différentes. Alors, très différentes, un jour, je me suis laissé aller à représenter des particules quantiques sous forme de perroquets sur une échelle, ce qui est quand même assez aventureux. Mais malgré tout, allons-y avec les perroquets. Vous savez peut-être que toute particule en mécanique quantique est dans un certain état quantique. Caractérisé entre autres par son énergie. Et si la température est suffisamment grande, eh bien les particules, donc ici mes perroquets, se répartissent sur différents niveaux d'énergie, donc avec une distribution qui s'appelle Maxwell-Boltzmann, mais peu importe. Alors la prédiction est que si ces perroquets sont des bosons, à température nulle, ils vont tous s'accumuler dans le niveau fondamental, ils vont être tous dans le même état, celui du bas. Bon, si ces particules interagissent entre elles, il y a quelques subtilités, j'y reviendrai peut-être. En revanche, si c'est des fermions, Au lieu d'être tous ensemble dans le même état quantique à température nulle, eh bien, ils ne peuvent être qu'un seul à la fois dans chaque état. Et donc, mes perroquets vont se retrouver un seul par niveau. Donc, vous voyez que le comportement collectif de mes bosons va être très différent du comportement collectif de mes fermions. Alors, en fait, ceci est franchement abusif, en particulier parce que là, vous voyez, on peut discerner chaque perroquet, même s'ils se ressemblent, et la réalité n'est pas celle-là. Alors, récemment, Wolfgang Kaeterle au MIT a fait ce joli dessin qui vous donnera une autre idée de ce que c'est que la condensation de Bose-Einstein dans un gaz, donc complémentaire de la précédente. Donc il considère un gaz de particules qui devient quantique et qui est dans une boîte. Alors vous voyez, ces particules sont des petites sphères bleues, là, j'espère que vous voyez, animées de vitesse représentées par des flèches. Donc, à haute température, eh bien, ces atomes se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions. À basse température, la longueur d'onde de De Broglie devient grande. Et donc, si je représente ces atomes par ces petits paquets d'ondes, vous voyez que ces paquets d'ondes commencent à s'étaler dans l'espace. Et puis, si la température descend de plus en plus, ces paquets d'ondes se recouvrent et il commence à se former une accumulation de paquets d'ondes dans le niveau fondamental qui correspond à une demi-longueur d'onde dans la largeur de la boîte. Un peu comme le niveau fondamental de vibration d'une corde de piano, si vous voulez, c'est une seule demi-longueur d'onde dans toute la longueur. Et donc, ce qu'explique avec ce dessin, ou ce que tente d'expliquer avec ce dessin Wolfgang Kaeterle, c'est que la condensation de Bose-Einstein, eh bien, c'est la transition progressive entre cet état où tous les atomes ont un comportement individuel et cet état où en fait toutes les ondes correspondant à tous ces atomes se superposent les unes sur les autres pour former une grosse onde macroscopique représentant une assemblée d'atomes indiscernables. Alors, je suis sûr que vous trouvez ça un peu compliqué. La seule chose que je voudrais aussi vous faire remarquer, c'est qu'il s'agit d'un type d'ordre de la matière qui est différent de l'ordre que vous pouvez constater quand, par exemple, un liquide gèle. Quand un liquide gèle, il devient en général cristallin, et l'ordre qui change, c'est un ordre spatial. Les atomes s'installent dans des positions régulières de l'espace, il y a des cristaux cubiques, hexagonaux, etc. Ici, il ne s'agit pas d'un ordre des positions, et pourtant ce liquide est plus ordonné que le liquide classique à plus haute température. Il s'agit d'un ordre dans ce qu'on appelle l'espace des moments ou des vitesses, si vous préférez, qui correspond au fait que ces atomes adoptent un comportement collectif. Ce n'est pas tout à fait non plus comme une foule qui se mettrait à marcher au pas, bien qu'il y ait une certaine analogie malgré tout. Alors, pourquoi est-ce que la superfluidité à avoir avec la condensation de Bose-Einstein? Alors, je voudrais citer au moins quelques arguments historiques. L'argument de Fritz London en 1938, c'était de dire, eh bien, si je calcule la température que prédisent Bose et Einstein, je trouve 3,2 degrés. En fait, je crois qu'il trouvait 3,1, mais peu importe. Et c'est à peu près la même chose que la température 2,17 à laquelle on voit ce changement remarquable dans la fluidité de ce liquide. Donc, on a l'impression que ça pourrait être ça. Très rapidement ensuite, il y a eu d'autres arguments, mais je voudrais passer directement à un argument que je crois bien sûr massif. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hélium-4 était un boson et que l'hélium-3 était un fermion. Donc, ce changement devrait intervenir pour de l'hélium-4, mais pas pour de l'hélium-3, et c'est bien exactement ce qu'on observe. L'hélium-3 liquide, qu'on a su obtenir en grande quantité plus tard, est extrêmement visqueux aux températures où l'hélium-4, lui, est extrêmement fluide. Donc, il y a une différence considérable entre ces deux atomes qui se ressemblent énormément, sauf une question de symétrie, et ça, c'est vraiment un soutien très fort à l'idée qu'il s'agit d'une propriété quantique. Il y en a d'autres. Malgré tout, l'hélium-3 liquide devient superfluide lui aussi, mais à une température qui est 1000 fois plus basse. Alors ceci va me permettre de faire un lien très rapide avec la supraconductivité pour la raison suivante. C'est que je vous ai expliqué que, enfin j'ai tenté de vous expliquer que ces propriétés statistiques ont à voir avec des questions de symétrie et en particulier de parité du nombre de particules élémentaires qui constituent l'objet qu'on considère. Et donc, si l'hélium-3 est constitué d'un nombre impair de particules, hein, deux protons, un neutron, deux électrons, ça fait 5, mais que si je prends deux atomes d'hélium-3, alors 5 et 5, 10, on a à nouveau un nombre pair de particules, et une paire d'hélium-3, après tout, pourquoi pas, est peut-être susceptible de devenir superfluide elle aussi. Eh bien oui, c'est ce qui se passe donc à cette température de 2,65 millikelvin, 1000 fois plus froid que l'hélium-4, ainsi que l'ont démontré Oshkosh, Richardson et Lee en 71, viennent d'avoir le prix Nobel pour cette découverte. Et il se trouve que ce mécanisme est extrêmement semblable à celui de la supraconductivité. Alors, quelques mots de la supraconductivité. Dans certains métaux, tels que le mercure, le plomb, le niobate d'étain, certains oxydes de cuivre découverts récemment, etc., les électrons, ou disons plus généralement les porteurs de charge électrique, sont aussi des fermions, mais peuvent s'associer par paires, c'est ce qu'on appelle les paires de Cooper, et c'est ce qui déclenche la disparition de la résistance électrique de ces métaux, c'est l'association des électrons en paires qui, à ce moment-là, dès qu'elles sont associées en paires, peuvent devenir superfluides. En somme, la supraconductivité, c'est la même chose que la superfluidité, mais pour des particules qui sont chargées électriquement, avec des conséquences électromagnétiques considérables. Je ne vais pas beaucoup vous parler de la superfluidité de l'hélium-3, sauf si vous le désirez plus tard, et je voudrais maintenant vous dire que vous faire sentir pourquoi cette superfluidité a tenu en haleine les physiciens que nous sommes pendant si longtemps. Donc j'ai appelé ça progrès et difficultés théoriques. Et ça commence par les travaux de monsieur Laszlo Tisza, qui était lui aussi de passage en France à l'époque, mais lui au Collège de France, pas à l'Institut Henri Poincaré. Avril 38, vous voyez, un mois après, les publications se sont succédées. C'est extraordinaire de lire le numéro de Nature de cette année-là. Et donc, ce qu'a proposé Laszlo Tisza à l'époque, c'est un modèle phénoménologique dans lequel cet hélium superfluide était considéré comme un mélange subtil de deux composantes. Ça ressemble un peu à un mélange binaire de deux liquides miscibles, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. Et donc, ce qu'il considérait à l'époque, pour expliquer toutes les propriétés observées à l'époque dans l'hélium liquide, c'était que cet hélium en dessous de 2,17 degrés était le mélange intime d'une composante superfluide qui n'avait pas d'entropie et pas de viscosité, et d'une composante normale qui, elle, était normale, c'est-à-dire visqueuse, avec une entropie non nulle. Bon. Et donc, en fait, ce modèle a été confirmé par la suite. Il avait aussi le mérite de prédire l'existence d'ondes de chaleur, parce que vous savez, dans un liquide qui est un mélange de deux composantes, on peut imaginer que les deux composantes vibrent en phase ensemble, alors il va y avoir une oscillation de la densité, c'est-à-dire une onde sonore ordinaire. Mais on peut imaginer que les deux composantes vibrent en opposition de phase, alors à ce moment-là, comme dans le cadre de ce modèle, la température dépend de la densité relative d'une composante par rapport à l'autre, la température oscille. Et donc, Tisza, à l'époque, a prédit l'existence d'ondes de chaleur, c'est ce qu'on appelle le deuxième son dans un superfluide, et effectivement, ces ondes de chaleur ont été découvertes, étudiées quantitativement en grand détail. En fait, le modèle de Tisza a été développé par le grand physicien Landau, qui sortait des prisons de Staline en 1941 sous la pression ferme mais néanmoins amicale de Kapitza. C'est toute une histoire politique intéressante de cette période en Union soviétique. Et donc, Landau a rendu ce modèle quantitatif et a surtout expliqué pourquoi la viscosité s'annule. Alors ceci non plus n'est pas extrêmement simple à comprendre, mais je voudrais vous faire sentir un peu le principe du raisonnement. Si vous imaginez un objet de masse m et de vitesse v se déplaçant dans de l'hélium liquide, par exemple une balle de ping-pong, je ne sais pas, ou un ion sphérique, ou tout objet sphérique que vous voudrez, eh bien il a une énergie cinétique qui, comme d'habitude, est 1,5 de la masse fois le carré de la vitesse. Et l'effet de la viscosité, ça va être bien sûr de transférer de l'énergie cinétique, c'est la dissipation, transférer de l'énergie cinétique en chaleur. Donc transférer de l'énergie cinétique de l'objet qui se déplace vers le liquide dans lequel cet objet se déplace sous forme de chaleur. Donc une variation de cette énergie cinétique, delta E, on différencie ceci, ça va être le produit V par la variation de l'impulsion MV, delta P. Alors, tout le raisonnement consiste à dire que dans un superfluide, il n'y a plus d'excitation d'atomes individuels et que des modes collectifs. Alors, ce n'est pas très facile à comprendre ça non plus, mais essayons. Si vous avez une assemblée d'atomes indépendants, vous pouvez exciter un peu cette assemblée d'atomes indépendants en donnant un peu plus de vitesse à l'un des atomes, par exemple. Donc, cet atome aura acquis un peu de vitesse, donc augmenter son énergie cinétique 1,5 de MV2. C'est ce que j'appelle l'excitation individuelle de un atome. Eh bien, ceci, hypothèse de Landau, est impossible dans un superfluide où il n'existe que des modes collectifs, c'est-à-dire par exemple des ondes sonores. Or, les ondes sonores ont une vitesse, la vitesse du son, et la simple écriture de la conservation de l'énergie et de l'impulsion dans le transfert d'énergie nécessaire d'énergie entre l'objet qui bouge et le fluide, si on écrit la conservation de l'énergie et de l'impulsion, on s'aperçoit que ce transfert d'énergie, donc la dissipation, n'est possible que si la vitesse est au moins égale à la vitesse de ces modes collectifs, donc dans mon exemple, dans ma théorie simplifiée, la vitesse du son. L'argument de Landau consistait donc à dire: un superfluide s'écoule sans dissipation, donc sans viscosité apparente, jusqu'à ce que sa vitesse atteigne la vitesse des modes collectifs, c'est-à-dire typiquement la vitesse du son. Alors, c'était une hypothèse qui a soulevé de nombreux travaux théoriques expérimentaux, mais qui au moins a été vérifié dans des expériences où c'était des ions, plus exactement des bulles chargées d'électrons, qu'on accélérait avec un champ électrique jusqu'à des vitesses de l'ordre de 50 mètres par seconde, qui se trouvaient être la vitesse calculée par Landau. Donc si vous mettez un électron dans l'hélium liquide, il fabrique une petite cavité, une bulle comme ça, 30 angstroms de diamètre environ, ça dépend de la pression, mais bon. On l'accélère avec un champ électrique, eh bien, il n'arrive pas à dépasser la vitesse 50 mètres par seconde, parce que dès qu'il atteint cette vitesse, alors il se passe un transfert d'énergie, la dissipation commence, il y a un transfert d'énergie entre cet objet qui se déplace et le liquide dans lequel on peut exciter des modes collectifs, c'est-à-dire des ondes sonores typiquement. Alors en fait, quand on considère un écoulement macroscopique au lieu de cet objet quand même très petit, par exemple, l'écoulement dans un tube, cette physique est considérablement plus complexe à cause de l'existence de tourbillons. Et je voudrais parler de tourbillons dans ce qui suit, mais juste vous montrer quand même. Il me reste 10 minutes, il faut que je me dépêche un peu. Une expérience ici que je trouve quand même spectaculaire elle aussi. Donc, j'ai appelé ça la dissipation quantifiée de l'écoulement à travers un orifice. Ce que font ces gens, Packard et Davis à Berkeley, c'est que vous voyez, ils ont de l'hélium dans une sorte de cavité un peu compliquée, avec une membrane, un diaphragme ici qui peut bouger et qui peut forcer un écoulement à travers un petit trou qui se trouve à l'intérieur de cette autre membrane ici. Alors, grâce à cette sorte de piston, ils accélèrent l'écoulement du liquide à travers ce petit trou. Et ce que Packard et Davis voient, c'est que la vitesse augmente et chute par émission d'un tourbillon à travers ce trou, de quantités qui sont toujours la même. Autrement dit, cette expérience démontre qu'il existe une dissipation dans l'écoulement d'un superfluide, mais seulement au-delà d'une certaine vitesse et de manière toujours quantifiée. La vitesse saute toujours d'une quantité qui est toujours la même, ou éventuellement le double ou le triple. Ces expériences, en fait, ont été réalisées à Saclay, 7 ans plus tard, 7 ans plus tôt, excusez-moi, en 1987, par Olivier Avenel et Éric Varrocaux, deux collègues et amis chers à moi qui voient les mêmes sauts de la vitesse. Donc vous voyez, la dissipation dans un superfluide, c'est compliqué, c'est quantifié, c'est pas du tout la même chose qu'un liquide visqueux. Alors, la difficulté théorique majeure a été de relier en fait la superfluidité et la condensation de Bose-Einstein. Curieusement, Landau a construit toute cette théorie sans parler de condensation de Bose-Einstein. Or, on sait bien que la condensation de Bose-Einstein est essentielle. Alors, quel est le lien entre condensation de Bose-Einstein et superfluidité? Eh bien, ça, c'est vraiment un problème difficile, et à mon avis, ce problème n'est pas complètement résolu en l'an 2000. Alors, l'une des difficultés, c'est la condensation de Bose-Einstein, prédite par Bose-Einstein, concerne des gaz parfaits, c'est-à-dire des gaz sans interaction entre les atomes. Il est certain qu'un liquide, c'est un fluide dans lequel il y a au contraire des interactions très importantes entre les atomes qui sont proches les uns des autres. Donc, première question, est-ce que la condensation de Bose-Einstein existe dans un liquide et pas seulement pour un gaz? Question difficile. La réponse de Penrose et Onsager a été oui, sauf que, au lieu d'avoir à température nulle tous les atomes dans l'état fondamental, vous vous souvenez tous mes perroquets sur l'échelon du bas, eh bien en fait, les interactions entre perroquets poussent certains perroquets un peu plus haut et donc n'occupent l'état fondamental qu'une partie de l'assemblée de perroquets dans l'hélium-4 liquide, environ 10% seulement. Et bien qu'il n'y ait que 10% d'atomes qui soient dans l'état fondamental, l'ensemble du liquide est tout de même superfluide à température nulle. Une autre difficulté consistait à justifier l'hypothèse de Landau comme quoi les excitations individuelles d'atomes disparaissaient au profit d'excitations collectives. Et ça, c'est essentiel pour comprendre qu'un superfluide peut couler sans viscosité apparente, sans dissipation. Alors, comme toujours en physique, vous savez, on fait des approximations. Donc, un gaz avec des interactions faibles, on sait traiter. Un liquide avec des interactions relativement fortes entre atomes, c'est très difficile. Donc, a commencé à cette époque, vers les années 60, une véritable quête du Graal pour un système qui serait gazeux et superfluide. Donc, pour quelque chose d'autre que cet hélium-4 ou cet hélium-3, dans lequel on pourrait observer la superfluidité et la condensation de Bose-Einstein, et comme ce serait un gaz, éventuellement calculer tout et comprendre tout. Et cette quête du Graal vient d'aboutir. Donc, c'est ce dont Claude Contanucci a parlé ici il y a quelques jours. Et donc, très rapidement à mon tour, les vapeurs alcalines ultra froides, nouveau gaz superfluide. Ce que viennent de réaliser un certain nombre d'équipes dans le monde, c'est une conjonction de techniques expérimentales magnifiques consistant d'abord à refroidir des atomes. Il s'agit d'alcalins, donc par exemple de sodium ou de rubidium, sortant d'un petit four. La première méthode de refroidissement consiste à les éclairer de manière très appropriée avec un laser. La comparaison souvent utilisée consiste à dire que les photons, tapant en sens inverse contre les atomes qui sortent vite du four, sont capables de ralentir ces atomes. Il faut en envoyer beaucoup à la fois, et puis il ne faut pas en envoyer trop parce qu'après on les accélère dans l'autre sens. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça parce que les températures qu'on obtient avec ce refroidissement laser sont bien plus faibles encore que la limite qu'on pourrait trouver avec ce raisonnement simple. Donc, refroidir les atomes avec des lasers et aussi par des méthodes évaporatives. Les piéger dans des champs magnétiques, les observer, ce qui n'est pas rien, et enfin observer leur condensation de Bose-Einstein. Eh bien, c'est ce que l'équipe d'Eric Cornell et Carl Wieman à Boulder en 1995, vous voyez qu'on arrive vraiment dans les années récentes, ont réussi à faire dans le rubidium est un gros alcalin, et que Wolfgang Käterle, qui est un scientifique allemand mais qui travaille au MIT à Cambridge aux États-Unis depuis déjà une bonne dizaine d'années, a réussi à faire lui aussi dans le sodium. Et puis, quelques années à peine plus tard, dans l'hydrogène atomique, il s'agit de dissocier les molécules H2 en atomes H et de faire le même genre de, grâce au même genre de technique, d'observer les mêmes propriétés. Eh bien, sur ces trois éléments, la condensation de Bose-Einstein a été observée et même aussi la superfluidité, j'y viens. Donc, la vitesse critique, Käterle, l'année dernière, a réussi à déplacer un objet, c'est un pinceau laser en fait, à déplacer un objet dans une vapeur de sodium et à voir qu'il y avait dissipation au-delà d'une vitesse critique qui est proche de la vitesse du son et pas de dissipation si l'objet se déplace à une vitesse inférieure à ce seuil. Donc, depuis l'année dernière, on sait et on peut calculer et vérifier, on sait que une vapeur de sodium dont on a démontré la condensation de Bose-Einstein. Voilà, peut-être que je vous la montre à propos. Ça, c'est. Ne me demandez pas. Enfin, si vous me demandez à quoi ça correspond, je vais avoir besoin de 5 minutes. Mais c'est la distribution des atomes. Ça peut être considéré comme soit leur position, soit en fait leur vitesse. Mais ça, c'est une vapeur de sodium classique, au-dessus de la température de condensation. Et ça, c'est la même vapeur de sodium où tous les atomes se concentrent au fond du puits du piège magnétique, ce qui veut dire qu'ils sont tous sur le même état quantique, qui signifie qu'entre cette température-ci et celle-là, il y a eu condensation de Bose. Ça, c'est le rubidium. Et les photos de Käterle au MIT dans le sodium sont du même genre. Donc, ce que Käterle a démontré, c'est que dans un écoulement d'une vapeur de sodium, on observait le même phénomène de vitesse critique. Selon que la vitesse donc, est supérieure ou inférieure à la vitesse du son, il y a dissipation, il n'y a pas dissipation. Mais ce qui me paraît le plus joli, et dont je voudrais vous dire quelques mots pour. Il me reste vraiment quelques minutes, c'est les tourbillons. Dans le laboratoire voisin du mien, à l'École normale supérieure, quelqu'un qui a un nom très proche du mien, qui s'appelle Jean, mais Dalibard, pas Balibar, Dalibard, donc Jean Dalibard et son équipe, ont réussi à piéger des atomes de rubidium dans ce champ magnétique subtil, et ensuite à faire tourner cette vapeur en l'agitant avec ce qu'ils appellent élégamment une cuillère laser. Et donc cette cuillère laser fait tourner ce condensat de Bose-Einstein, qui est donc cette vapeur en forme de cigare, non, un agitateur laser. Et ce qu'ils observent, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils font tourner cette vapeur, il apparaît des tourbillons, un par un, à l'intérieur de ce cigare. Un tourbillon, deux tourbillons, trois tourbillons, quatre tourbillons, etc. Huit tourbillons, 11 tourbillons. Or, ceci est exactement, une fois de plus, le comportement qui avait été observé dans l'hélium liquide et qui est prédit par cette théorie quantique de cette superfluidité. Maintenant, ça, c'est de l'hélium 4. Et vous voyez, quand on fait tourner un récipient qui contient de l'hélium 4 liquide et que par une méthode subtile, on visualise les tourbillons, on s'aperçoit que contrairement à un liquide visqueux classique, qui tournerait en masse avec un certain profil de vitesse et puis aussi une forme parabolique du ménisque. On voit rentrer des tourbillons tous identiques parce qu'ils sont quantifiés un par un. Donc, au fur et à mesure que la vitesse augmente, un superfluide en rotation a un tourbillon, deux tourbillons, trois, quatre, cinq, etc. Je ne sais combien, peut-être une dizaine ici. Alors, pourquoi ces tourbillons sont quantiques? Une fois de plus, pour vous l'expliquer, il faudrait que je fasse un minimum de mécanique quantique. Je vais éviter ça. Mais disons que tous les tourbillons dans un superfluide sont tous pareils. Tous pareils, ça veut dire qu'ils tournent tous à la même vitesse et que la vitesse de rotation est liée à la constante de Planck et au rayon. Vous voyez, c'est en gros, c'est H sur M fois 1 sur R. C'est pour inversement proportionnel à la distance au centre. Tous les tourbillons quantiques dans les superfluides ont cette nature, et ça a été observé, mesuré, vérifié par des quantités de méthodes différentes, y compris faire des ronds de fumée dans des tourbillons en anneaux, vous savez, des ronds de fumée dans un superfluide. C'est l'expérience de Rayfield de Rife. Alors, avant, pour terminer, il faut quand même que je vous signale qu'il existe d'autres superfluides dans la nature, mais que c'est plus difficile de faire des expériences dessus. L'un d'entre eux, c'est la matière nucléaire, c'est-à-dire le noyau des atomes. Si vous prenez un gros atome, il y a beaucoup de protons et beaucoup de neutrons dans le noyau. Eh bien, les noyaux que j'appelle paires-paires, c'est-à-dire qui ont un nombre pair de protons et un nombre pair de neutrons, peuvent voir ces protons et ces neutrons s'apparier, comme dans un supraconducteur. Et d'après les mesures de l'observation de leur moment cinétique, leur propriété de rotation, si vous voulez, on sait que donc, dans ces cas-là, la matière nucléaire à l'intérieur du noyau des atomes est-elle aussi superfluide ou supraconductrice, si vous préférez. Un autre exemple que je trouve fascinant, c'est les étoiles à neutrons. Alors, je ne sais pas si les étoiles à neutrons ont été ou seront mentionnées dans des conférences d'astrophysique. Vous savez peut-être que quand ce qu'on appelle une supernova explose, il y a deux cas possibles selon sa masse. Si la masse est très grande, l'explosion de la supernova conduit à ce qu'on appelle la formation d'un trou noir. Mais si la masse n'est pas tout à fait égale à cette masse critique, alors on forme plutôt ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est quand même, à mon avis, un objet spectaculaire, puisqu'il faut que vous imaginiez que vous avez à peu près la masse du Soleil concentrée dans une sphère de rayon seulement 10 km. Donc vous imaginez que la densité est phénoménale, 10 puissance 15 grammes par centimètre cube à l'intérieur d'une étoile à neutrons. Et d'autre part, ces étoiles tournent à une vitesse prodigieuse de l'ordre d'une fraction de tour à 30 tours par seconde. Hein? Imaginez une étoile qui tourne à 30 tours par seconde, c'est quand même pas rien. Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi parfois des pulsars, et ces pulsars ont des sursauts, c'est-à-dire que c'est comme des phares qui tournent, qui émettent une impulsion de rayonnement toutes les fractions de seconde, disons, et la fréquence à laquelle ce phare éclaire, de temps en temps, saute brusquement à une autre valeur et revient. Eh bien, la théorie actuelle des sursauts des étoiles à neutrons, c'est de dire que ces étoiles ont une croûte, mais à l'intérieur de la croûte, qui d'ailleurs est poreuse, il y a un superfluide de neutrons et de protons, qui d'ailleurs ne sont pas toujours différenciés, si je comprends bien, et que ces sursauts correspondent au décrochage de paquets de tourbillons accrochés, si vous voulez, par la croûte externe. Donc il semble que les superfluides existent dans l'univers. Enfin, comme je n'ai pas cité une seule fois mon nom, vous vous demandez peut-être ce que je fais moi-même. Et donc je voulais juste vous montrer qu'il est possible de cristalliser un superfluide. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est passionnant, mais juste vous montrer quelques photographies de mes cristaux d'hélium. Donc, quand on comprime de l'hélium superfluide, on peut le cristalliser sous forme de petits cristaux que vous voyez ici. Et ce qu'il faut regarder, c'est que ces cristaux sont très facettés, un peu moins, presque pas et pas du tout, selon la température. Et donc, pendant 15 ans de ma vie, j'ai étudié la cristallisation d'un superfluide et je me suis demandé combien de facettes pouvait avoir un cristal d'hélium en fonction de sa température. À d'autres moments, je fais aussi de la cavitation. Voilà, je vais terminer avec, parce qu'on demande toujours à quoi ça sert. Mais ça dépend des goûts. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir à quoi ça sert, d'autres qui ont besoin de savoir à quoi ça sert. Alors, trois applications. La réfrigération. Je vous ai dit que les superfluides sont des liquides dont la conductivité thermique est extraordinaire. Eh bien, effectivement, on utilise cette propriété pour fabriquer des électroaimants surpuissants, en particulier dans certains accélérateurs de particules. Les lasers à atomes, eh bien, les condensats de Bose de vapeurs alcalines dont j'ai parlé tout à l'heure, et je suis sûr que Claude Quintanugia en a parlé ici la semaine dernière. Si on les laisse fuir un peu, ils laissent s'échapper des atomes qui sont tous cohérents ensemble, de la même manière que les photons d'un laser optique sont cohérents aussi. Donc, la découverte des condensats de Bose et de la superfluidité des condensats de Bose de vapeurs alcalines conduit à la fabrication de lasers à atomes dont on ne sait pas encore toutes les applications possibles, mais qui, à mon avis, seront extrêmement intéressantes. Enfin, certains d'entre vous savent peut-être que grâce aux supraconducteurs, on peut fabriquer des magnétomètres, c'est-à-dire des dispositifs qui mesurent des champs magnétiques, d'une précision absolument extraordinaire. Eh bien, comme le champ magnétique a à voir avec la circulation des charges, hein, et donc les propriétés de tourbillons quantiques dont j'ai parlé dans les superfluides ont une analogie avec les tourbillons dans les supraconducteurs et la manière dont le champ magnétique pénètre un supraconducteur, etc. De la même manière, on a déjà mis au point des appareils qui utilisent des boucles de superfluides comme gyromètres et qui d'ores et déjà mesurent la rotation de la Terre avec une grande précision. Voilà, j'espère que je vous ai donné une idée l'ampleur de ce sujet de recherche, des bizarreries des liquides quantiques, et je vous remercie de votre attention.